On partait un petit peu blessé. C'est vrai qu'il y a eu cette perte d'emploi qui a été assez brutale. Donc on partait aussi pour guérir. Et finalement, ce vide que l'on pensait, avec des gros guillemets, traverser, s'est transformé en vie parce qu'on ne s'est jamais senti aussi vivant.
Aujourd'hui, je vous présente la famille Bresse, Justine, Romain et leur petit garçon Omer. Tous trois se sont lancés il y a quelques temps dans une traversée de la diagonale du vide en France, donc à pied. Odyssée pédestre d'environ 1550 km, 20 départements traversés, 4 mois de marche et puis un bébé qui a exploré le monde depuis sa poussette.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
Bonjour Justine et bonjour Romain.
Bonjour Florent.
Bonjour Florent.
On réalise très régulièrement ce podcast Les Aventuriers depuis Avignon, puisque la Fabrique Audio est basée à Avignon. Et il se trouve que Romain, toi tu es un Avignonnais d'origine.
Alors oui, pour être précis, je suis de l'autre côté du Rhône, ouais. Villeneuve-les-Avignons.
Ah, donc là, c'est plus le Vaucluse, c'est le Gard.
Non, c'est le Gard, ouais. Et je revendique mes ascendances gardoises. Mais oui, j'ai grandi dans le coin et c'est un plaisir pour moi de revenir sur ces terres, ces belles terres de Provence.
Et on profite donc de vos vacances dans le coin. Là, vous êtes là pour le Festival d'Avignon. En ce moment, c'est le festival.
Pour quelques jours, oui, ouais. On va en profiter pour voir des pièces à partir de demain. On est super contents.
Alors, jusqu'à l'année dernière, vous aviez une vie traditionnelle, je dirais, une vie tranquille. Il n'y avait pas encore de bébé en 2023. Un parcours professionnel rangé, on va en parler dans un instant. Un appartement parisien, un mariage également. Vous arriviez à peu près sur vos 30 ans, c'est ça,
hein? À peu près, oui, on avait 30 ans.
Bref, tout allait bien. Et puis, il y a eu un changement dans votre vie. Le changement de votre vie, c'est l'arrivée d'un certain Omer.
Exactement. Alors, on est en 2023 et comme tu l'as dit, on est à Paris. Deux semaines avant l'accouchement d'Omer, arrive un coup du sort.
Ouais.
Et avec Romain, il s'avère qu'on perd nos boulots. On perd nos emplois et là, c'est un grand chamboulement parce que Omer va arriver et il y a une série de questions qui nous tombent dessus. Où est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour quitter la capitale? Est-ce qu'on n'irait pas vivre en province? Bon, on se pose ces questions-là. Il y a un vide professionnel qui apparaît et on y répond par une marche. On se dit que là, pendant quelques mois, on va aller marcher et on va aller lire, écrire et marcher en traversant la diagonale du vide.
Pourquoi la marche finalement? Qu'est-ce qui vous a motivé à marcher? Ça aurait pu être faire du vélo, ça aurait pu être faire de l'escalade.
Ça faisait avant ce coup du sort dont parlait Justine, en fait, depuis la fin du confinement,
ouais.
On a pris l'habitude de prendre nos sacs sur le dos, d'y mettre une tente et un sac de couchage et d'aller bivouaquer en France et à l'étranger. Et on a très vite, en fait, saisi toutes les vertus qu'opérait sur nous la marche. En fait, ne serait-ce qu'un week-end de bivouac à Fontainebleau, donc c'est à 30 minutes de TER de Paris, nous permettait de nous évader, enfin, d'en avoir l'impression en tout cas pendant une semaine. On avait passé une nuit sous la tente, mais on était parti, on était revigoré. Et on s'est dit, bon ben là, on vient d'essuyer un coup un peu rude. Voilà, il y a un vide professionnel soudain, un vide social aussi relatif. Eh bien, très bien. On a besoin de trouver des réponses à nos questions. Partons marcher longtemps et dans ce cas-là, traversons la diagonale prétendue vide, enfin en tout cas cette diagonale qui va des Ardennes aux Pyrénées et que certains géographes ont appelé la diagonale du vide pour conjurer donc ce vide et voilà, chemin faisant, avoir le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qu'on veut faire après.
Et en décembre 2023, donc il y a toutes ces questions déjà dans vos têtes, et c'est seulement 3 mois après, puisque vous allez partir le 1er avril 2024, que vous allez vous lancer dans cette fameuse traversée de la diagonale du vide. Quand on a un nouveau-né, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Où est-ce que vous avez trouvé le temps d'organiser tout ça?
On a mis toute notre énergie là-dedans. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses auxquelles il fallait réfléchir, ouais. Parce que l'idée, c'était pas non plus de partir à l'aventure sans responsabilité. On savait que là, on allait embarquer un tierce personnage avec nous. Il fallait réfléchir à son confort à lui, donc tracer un itinéraire adéquat. Par exemple, on a contourné le Massif Central parce qu'on sait qu'à cet âge-là, les oreilles ne sont pas suffisamment matures, ils ne pouvaient pas monter à une certaine altitude. Donc, tout a été pensé pour le confort d'Omer, en termes d'itinéraire, en termes de matériel, en termes de kilomètres à abattre par jour. Il nous est arrivé de faire 3, 4, 5 kilomètres par jour. On n'était pas dans une performance, mais dans un cheminement au long cours. Donc c'est vrai que ces 3 mois qui se passent entre la naissance d'Omer et notre départ le 1er avril ont été placés sous le signe de l'organisation, de la logistique et essayer de penser à tout, mais on ne pense jamais à tout.
Il ne faut pas penser à tout.
J'essaie d'imaginer les gens autour de vous, les familles, les proches, les amis, quand vous leur annoncez que dans 3 mois, alors que vous venez juste d'avoir un enfant, dans 3 mois, vous allez faire une marche à pied de 4 mois, la diagonale du vide, avec le petit Omer. Il y a sans doute eu des gens qui vous ont dit « Non mais là, vous n'êtes pas raisonnable, c'est pas possible ».
Ils nous ont demandé quand est-ce qu'ils pouvaient venir.
Oui, voilà. Okay. En fait,
tout le monde l'a bien accepté.
Ah ben, nos parents, en fait, ont été ravis de nous voir nous projeter sur autre chose tout de suite. Et en fait, bon, ils nous connaissent un petit peu. On a fait quelques expériences d'itinérance au long cours en autonomie à l'étranger. Et bon, je pense qu'ils... Ils avaient confiance en le fait qu'on n'était pas des gens trop irresponsables et qu'on ferait les choses bien. Enfin, on essaierait de les faire à peu près bien, quoi. Et ce qui était très touchant, surtout, c'est que ça a finalement retendu les liens avec eux et avec la famille, en fait, parce que parents, oncles et tantes ont vraiment adhéré au projet, sont venus marcher avec nous plusieurs fois, découvrir des bouts de France qu'ils ne connaissaient pas. Et ce qui était très drôle aussi, c'est qu'un bébé s'agrandit très vite. Et donc, en fait, il fallait... Omer est parti, il avait 3 mois. Mais voilà, déjà, un body, au bout d'un mois, un body de 3 mois, à 4 mois, il faut le jeter, parce que le petit grandit, etc. Donc, en fait, ils ont été chargés de nous réaliser et de nous expédier des colis de vêtements pour chaque taille, en fait, d'Omer, selon sa croissance, selon les saisons. Donc voilà, ça a été on a embarqué avec nous une partie de la famille, ça a été super.
Alors vraiment, question très organisation, où est-ce qu'ils envoyaient ces colis, puisque vous étiez dans un endroit différent tous les soirs?
Alors, il s'est avéré que sur le trajet, on avait certaines connaissances, et puis des connaissances de connaissances. Lorsqu'on savait qu'on avait une adresse à peu près, je dirais, stable, dont on savait qu'on irait forcément, on utilisait cette adresse-là pour aller expédier le colis en amont de notre passage. Et puis, dès qu'on passait à cette adresse-là, on récupérait le colis.
Nous sommes donc le 1er avril 2024. Ça y est, vous vous êtes lancé dans cette traversée de la diagonale du vide. Pourquoi ce choix de la diagonale du vide ?
En fait, on est parti à une époque où on était confronté à un vide professionnel, soudain, un vide social relatif, et on s'est dit, ce qui est très rationnel, on va conjurer le vide par la diagonale du vide.
Ah ouais.
Voilà, c'est tout à fait normal.
Ouais. Alors, vous étiez tout de même des passionnés de randonnée à la base, vous l'avez dit, d'itinérance au long cours. Pourtant, quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit quelque chose d'assez étonnant. Vous m'avez dit que rien ne vous prédestinait à vous jeter dans une telle aventure. C'est-à-dire ?
Romain est très casanier, par exemple. Je pense que tu peux en parler, Romain.
Non, mais j'ai une... C'est vrai que même pour aller faire une nuit de bivouac en Vallée de Chevreuse ou à Fontainebleau, voilà, ça me fait stresser énormément.
Ah oui. Oui. C'est quoi qui te faisait stresser ? Parce que j'imagine que du coup, maintenant, il y a moins de stress quand même.
Non, mais il y a toujours du stress.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, mais c'est simplement le... Oh, non, vraiment, ça se passe très bien à chaque fois. Hein. Mais c'est juste voilà, le fait de ne pas forcément savoir exactement où je vais planter la tente le soir. Voilà, c'est juste...
Non, mais ça, c'est génial parce que ça permet aussi d'imaginer à celles et ceux qui sont un peu casaniers ou qui ont besoin de repères, de se dire, bah ouais, mais il y a des gens qui sont aussi dans le même cas que moi et qui ont fait 4 mois de bivouac. En tout cas de randonnée, quoi.
Oui, puis même avant, on faisait des semaines d'itinérance, hein, en Arménie ou à l'étranger. Et bon, ça. Je prenais sur moi, j'avais mon petit doudou le soir dans la tente. Non, mais bon, il faut se faire un petit peu violence rien ne nous prédestinait à ça, simplement parce qu'on était pris dans des vies tout à fait conventionnelles, traditionnelles, et se dégager 4 mois pour partir comme ça, découvrir un pays par la marche, c'était compliqué.
Vous êtes donc parti du nord de la France, Sedan, on est à la frontière avec la Belgique. Objectif, arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Sedan, Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 1550 km à peu près.
C'est ça.
Hein, c'est ça. Mmh. Vous allez passer par les Ardennes, la Meuse, la Marne, l'Aube, la Côte d'Or, Lyon, la Nièvre, l'Allier, la Creuse et j'en passe. Il y en a eu des départements traversés, 20 départements au total. Comment vous faites votre calcul pour savoir que vous allez arriver 4 mois plus tard? Est-ce que vous le savez d'abord?
Non, on ne le savait pas. Ouais. On ne le savait pas et même on s'était imaginé qu'on pourrait partir 6 mois, 9 mois, 1 an, on ne savait pas. Mmh. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on y arriverait. Saint-Jean, c'était un objectif, mais il n'était pas question d'abandonner. On savait qu'on y arriverait. Quand? On ne savait pas, mais on savait qu'on y arriverait. Et oui, on est parti avec la tente. En revanche, ce qui nous a surpris, c'est l'hospitalité que l'on a rencontrée en chemin, puisque dès le premier soir, dès la première étape, on a été accueillis dans un petit village 10 km plus loin de Sedan qui s'appelle Bulson. Ouais. On a été accueillis par le maire et puis ensuite on a été accueillis par une famille qui nous a prêté un gîte pour la nuit. Et immédiatement, il y a eu un élan d'hospitalité, de générosité incroyable. Et à partir de cette première étape, il y a une chaîne qui s'est alimentée d'elle-même pendant 10 jours, où on était complètement... comment dire ? Elle nous a dépassé, cette chaîne. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas comment les rebonds se sont effectués d'une nuit à l'autre. C'est un tel qui connaissait un tel, qui connaissait un tel. Et on s'est complètement laissé porter par une hospitalité. Ça a été chose incroyable.
Est-ce que l'arrivée avec un bébé chez les gens a été parfois un problème ?
Pas du tout. En fait, les personnes étaient souvent très surprises. Ouais. Parce que c'est quand même un tout petit bébé. 3 mois, c'est vraiment tout petit. Mmh. Et surtout à pied, ça pouvait un peu étonner. Mais en fait, on a vraiment rencontré un éventail de personnes remarquables, enfin une diversité humaine impressionnante. Et il est vrai que parfois, dans le monde rural, on tombe chez des personnes âgées, parfois chez des personnes seules. Et en fait, l'arrivée d'un petit comme ça, d'un tout petit, tout frais, devant leur porte le soir, ça leur faisait du bien. Enfin, c'était des moments très émouvants parce que, pour X raisons, ça faisait très longtemps, parfois des années, qu'elles n'avaient pas vu un nouveau-né. Ouais. Pendant une nuit, elles avaient les pleurs d'Homère pour elles. Et donc, elles étaient très contentes de revoir une petite vie. Et non, ça a au contraire donné une dimension tout autre à notre démarche, je pense, le fait d'avoir Homère.
Alors, quand on se lance dans une telle aventure, on découvre chaque jour de nouvelles choses sur le monde et sur soi. Un petit peu comme un enfant, je ne sais pas jusqu'à quel âge on découvre des choses tous les jours. Et ça, ce truc-là, on le recherche un petit peu toute notre vie, finalement, en se lançant des challenges, etc. C'est ce que vous veniez rechercher un petit peu, la découverte de nouvelles expériences, de nouvelles émotions tous les jours?
Je ne dirais pas que c'était recherché. Mais ça nous est tombé dessus chaque jour. Alors effectivement, il y a toujours cet émerveillement de l'enfance et qu'on oublie un petit peu à l'âge adulte. Et ça devient une sorte d'effort aussi, ouais, pour un adulte qui est occupé à sa vie traditionnelle de quand même déceler dans chacune des choses qu'il peut voir une part d'émerveillement. Mmh. Et ça, ça s'est imposé à nous aussi, chaque jour. Ça a été une école de la vie qui nous a fait du bien, parce qu'on avait passé quand même pas mal de temps sur les bancs de l'école avec Romain.
Ouais. C'est là où vous vous êtes rencontrés d'ailleurs à la fac.
C'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Et là, de faire cette école buissonnière sur le tard, eh bien, ça nous a fait un bien fou.
Qu'est-ce que vous avez appris sur votre parcours, sur plusieurs aspects? D'abord, j'aimerais vous demander ce que vous avez appris sur la nature, ensuite sur l'humain, ensuite sur vous, et ensuite sur Homer, votre bébé. On va commencer avec la nature. Est-ce que la diagonale du vide est vraiment vide?
Alors, bien sûr, non. Alors, c'est vrai que là, c'est compliqué parce que c'est une notion très poétique. On trouvait la notion alors péjorative, la diagonale du vide, bon, mais aussi très poétique, parce que vide de quoi ? Même quand il n'y a pas d'humain, en fait, il y a énormément d'animaux, déjà, bien sûr. Et sur la nature, en fait, on a découvert déjà un pays extrêmement riche en termes de relief. Ouais. C'est exceptionnel, vraiment, la France. En l'espace de 10 jours de marche, hein, donc ça fait peut-être une centaine de kilomètres, on passe des forêts d'Ardennes, des cuesta d'Ardennes, au massif de l'Argonne, et d'un coup on arrive dans cette plaine champenoise où l'horizon, d'un coup, qu'on n'avait pas vu depuis 10 jours, l'horizon s'étend parce qu'il y a des champs, mais à perte de vue. Enfin, c'est une expérience exceptionnelle pour le regard et pour l'esprit. Ça fait énormément de bien de voir toute cette richesse naturelle. Et un exemple d'école buissonnière, vraiment, c'était à La Roche-Millet. Au sortir du Morvan, on tombe chez une famille de jeunes agriculteurs, mais qui font les choses pas comme les autres, parce qu'ils font beaucoup d'agriculture symbiotique. Et en fait, il s'agit de planter son potager et son verger, faire un peu de permaculture, en fait, faire en sorte que toutes les espèces qu'on plante, eh ben, vont vivre ensemble pendant plusieurs années en s'aidant, quelque part. Et en fait, être plongé pendant une ou deux heures dans ce potager-là, apprendre aussi, ce qu'on peut faire avec de l'ortie, avec toutes les herbes, en fait, qu'on peut trouver à nos pieds. Là, ça a été vraiment une après-midi.
Notre premier herbier.
Ah ouais, on a fait un herbier d'ailleurs. Bravo. De tout ce qu'on pouvait manger sur les chemins.
Même question sur vous-même, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ?
Énormément, mais c'est très lié aussi à tous les humains qu'on a rencontrés chaque jour. On s'est abandonné pendant cette aventure, parce que le matin même, on ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir le soir. Et il s'avère, quand on regarde les 4 mois qui se sont passés, qu'on a dormi chez des personnes très différentes les unes des autres en termes d'âge, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des nonagénaires parfois, toutes les classes sociales, donc la boursière, le médecin, le noble, le bourgeois, le curé, enfin en termes de profil, c'était tout bonnement incroyable. Et avec des histoires aussi qui ont été formidables, parce qu'on ne restait qu'une nuit. Alors forcément, ça donnait lieu à des soirées très intenses au niveau de la conversation. On raconte ce qui nous a le plus touchés, alors en épisodes heureux mais aussi malheureux. Et d'avoir ces conversations tous les soirs, tous les soirs avec ces personnes, ça nous a porté et ça nous a donné beaucoup, beaucoup de richesse.
Qu'est-ce que vous avez appris également sur Homer, votre bébé, qui, quand vous avez commencé, avait 3 mois, vous avez terminé, il en avait 7, il avait grandi.
On a appris qu'on pouvait tout à fait partir avec 3 bodys et 2 pyjamas pendant 4 mois pour un bébé, ça se fait. Et non, plus sérieusement, je dirais que c'est plutôt lui, peut-être, qui nous a appris des choses, notamment, Justine en parlait, avoir ce regard qu'ont les enfants sur le monde, un regard fait d'émerveillement continuel et de sourire au monde qu'on traverse, alors qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pas si grave, c'est pas ça forcément le plus important, et réapprendre, voilà, à capter le beau partout où il se présente, il nous a réappris aussi que voilà, le pire n'était pas forcément certain.
La diagonale du vide est devenue pour vous une ligne de vie, c'est ce que vous m'avez dit quand vous avez pris contact avec les aventuriers, c'est-à-dire
on a raconté tout à l'heure qu'on partait un petit peu blessé. C'est vrai qu'il y a eu cette perte d'emploi qui a été assez brutale. Donc, on partait aussi pour guérir. Ouais. Et on a compris, chemin faisant, que ces rencontres quotidiennes, cette beauté des paysages, le fait d'être en famille, le fait d'être avec notre enfant, d'avoir cette chance de le voir grandir, de voir ses premières mimiques, nous apportait beaucoup de vie, insufflait des choses. Et finalement, ce vide que l'on pensait avec des gros guillemets, traversée, s'est transformée en vie, parce qu'on ne s'est jamais senti aussi vivant. À vivre chaque instant de manière très intense et avec le sentiment de ne pas perdre une seule seconde de sa vie.
Il y a un élément de la nature qui ne va pas vous lâcher pendant 3 mois, c'est la pluie. Elle était présente.
Oui, elle était bien présente, elle.
C'était une compagne très fidèle, puisqu'en fait, du 1er avril de Sedan jusqu'à à peu près Userche, 21 juin, ou Estivaux en Corrèze, on a eu quasiment que de la pluie, ouais, tous les jours. Ça a été une compagne très très fidèle à la pluie. Oui.
Je ne sais pas si vous croyez, moi j'y crois, à la belle étoile, à la bonne étoile plutôt d'ailleurs. Est-ce que la chance, est-ce que le hasard, est-ce que la providence, est-ce que la bonne étoile ont veillé sur vous pendant ces 3 mois ?
Oui, oui, oui. Alors là, je pense qu'on peut raconter l'épisode de Brassy.
Ah oui, non, mais en fait, il faut imaginer, Brassy, c'est au milieu du Morvan. Hein, et nous sommes partis l'esprit très léger. On est parti avec une poussette qui a des pneus gonflables, donc comme tout vélo, par exemple.
Ouais, un peu tout terrain.
Tout terrain, tout à fait. Allez, surtout tout terrain, même. Forcément, nous, on est parti en se disant qu'un pneu, ça ne crève pas, et puis que 4, 5, 6 mois de route, non, il y aura aucun problème. Donc, on est parti sans rustine, sans chambre à air,
optimiste
sans pompe, rien
que vous
du tout.
Êtes.
Ah, oui, complètement, complètement. Et forcément, la crevaison arrive quand on est au milieu du Morvan, un dimanche. Donc là, on se dit quand même, ça va être un peu compliqué parce que les agriculteurs ne roulent pas trop en 20 pouces.
Oui.
Hein, et surtout, un dimanche en plein Morvan, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose. On devait arriver à la ville de Brassy. Et on se rend dans le village de Brassy, qu'on rallie en même temps que la Brassyclette, qui est donc la fête du vélo. Et il faut imaginer le village où il y a 600 cyclistes qui nous voient arriver avec notre poussette complètement brinque-ballante. Et alors là, on a dû les repousser en fait, parce que tout le monde voulait coller une rustine sur les pneus de notre poussette. Mais comme quoi, enfin voilà. Et finalement, tout s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'est des moments, l'aventure en fait, on s'abandonne tellement. Que bien sûr il y a des coups durs qui peuvent arriver, mais le pire vraiment n'est jamais certain, et il y a comme ça des coïncidences qui font vraiment beaucoup de bien.
Quel est l'endroit où vous avez dormi qui était le plus insolite, je dirais?
Alors, il faut savoir qu'on a dormi 120 nuits, 4 mois ça fait 120 nuits.
Ouais.
À l'extérieur pendant notre traversée, et je dirais qu'on a dormi une centaine de fois chez les Français.
Ouais.
La vingtaine de nuits restantes, ça peut se composer de nuits dans les églises, de nuits dans les salles de conseils municipaux, dans un centre équestre.
Ah
ça,
ouais.
Je dirais que ça a été assez incroyable, au milieu des chevaux. Sous une nuit où il y avait eu un orage, enfin c'était incroyable.
Et quoi, sur la paille ?
Alors sur la paille, sur le sol.
Ouais.
Mais l'odeur de paille n'était pas très loin.
Romain, toi qui aimes bien être sur un matelas en dur et tout là.
Alors oui, j'étais à la dure, voilà.
Ouais.
Mais c'était très bien. On était dans notre élément parce que l'odeur de cheval masquait notre propre odeur, donc c'était parfait finalement.
Il y a eu une abbaye également dans laquelle vous avez eu une nuit de paix, hein, chez les moines cisterciens.
Oui, ça avait été incroyable, l'abbaye de Ceffonds.
Ouais.
Et on est arrivé, on a été accueillis par un frère hôtelier et qui était complètement disponible, qui a garé notre poussette, qui nous a sorti le lit parapluie. C'était incroyable de dévouement. Et on a passé une nuit formidable, un dîner avant la nuit dans le silence. Et ça a été un moment mémorable, oui, dont on se rappellera très longtemps.
Parlez-moi également, si vous le voulez bien, de cette nuit passée chez cet ermite.
Mmh. Oui, dans l'Allier, on a rencontré un ermite. Voilà, donc c'est un prêtre qui a fait le choix de se retirer de la société pour se consacrer à l'étude des textes et des pères de la Bible notamment. Et En fait, on a passé chez lui, dans son prieuré complètement sombre, un après-midi dont je ne saurais quantifier, je ne saurais pas dire combien de temps a passé avec lui à discuter, parce que voilà, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui vient pas de voilà, qui a un parcours de vie très très riche, très inspirant. Et Justine parlait d'écoute. Voilà, là, on s'est assis, on s'est plus quand le soleil s'est couché, quand on s'est levé, quand on a dû aller manger, on était perdu dans les récits de sa vie. C'était extrêmement émouvant et encore une fois, oui, extrêmement émouvant. Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose qui va se passer à mi-parcours avec les échanges que vous allez réaliser avec les uns et les autres, et notamment la prise de conscience du caractère initiatique de votre marche et donc de votre démarche.
C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pris en compte au départ. On était parti sans forcément prendre conscience du fait que le voyage était en train de nous faire aussi. On fait pas forcément le voyage, mais c'est plutôt le voyage qui nous fait, comme l'écrit Nicolas Bouvier. Et là, c'est vrai que marcher des mois avec notre enfant, rencontrer des gens tous les jours différents, c'était en train de nous fonder en tant que parents, de nous refonder en tant que couple. Et voilà, on apprenait ensemble à se connaître, à se reconnaître et à connaître aussi Omer. Et ça a été... c'est vraiment à mi-parcours, à traverser de l'Allier, qu'on s'est rendu compte qu'en effet, on était en train de vivre quelque chose de fondateur et de fondamental, et une expérience qui nous marquera très longtemps.
Alors, on l'a dit, la pluie vous a longtemps accompagné dans ce périple, mais heureusement, les beaux jours ont fini par arriver au bout quoi de 3 mois, finalement.
3 mois de marche, ouais.
Ça y est, on est donc au quoi, 1er août à peu près.
Ah bah, on est au 21 juin. La météo est précise.
Et donc, ça y est, il ne peut plus et tout le village vous attend d'ailleurs. Vous êtes arrivé à quel endroit le 21 juin ?
Alors, le 21 juin, oui, mais en fait, ça ne s'invente pas. C'était 21 juin, Uzerche, et puis Estivo. Estivo, ouais. Pour un village où il s'arrête de pleuvoir.
Alors,
quand
ça,
même,
marrant,
Estivo,
ça.
on ne pouvait pas mieux faire. Et là, c'est vrai qu'on nous accueille sous les magnifiques halles du village. Tout le monde est là et ça donne une pêche incroyable et qui ne nous lâchera pas, d'ailleurs, cette énergie jusqu'à... Bah jusqu'au bout, jusqu'au 1er août, jusqu'à Saint-Jean, la fin, le dernier mois, c'est roue libre.
Alors, on peut voyager en prenant ses chaussures de marche, on peut faire la diagonale du vide, on peut également voyager par le livre ou par les livres. C'est d'ailleurs ce que vous allez comprendre en rencontrant un hôte du côté de Brive.
Oui, on rencontre une femme fabuleuse qui a 5 filles, 5 enfants. Et au moment de discuter, d'en apprendre un petit peu plus sur elle, on lui demande si elle voyage. Et elle nous dit oui, je voyage, mais avec les livres. Depuis mon salon, donc il peut se passer mille et une choses dans la cuisine, dans le jardin. Mes filles sont à côté, mon mari aussi. Et moi, je suis plongée dans mes livres et je voyage et je vais à la rencontre du monde. Et c'est vrai qu'on pense souvent à elle parce qu'en la quittant, on s'est dit qu'on espère qu'un jour, elle pourra aussi voyager grâce à nous, avec le livre qui va sortir pour découvrir des lieux, des départements, des paysages de France qu'elle n'aurait peut-être pas vus.
Alors, vous êtes parti le 1er avril, vous n'aviez plus d'emploi à ce moment-là. Quand on part pendant 4 mois sur les sentiers, on se dit bien qu'il va y avoir un retour. On le sait qu'il y aura un retour, il existera. Est-ce que du coup, on est déjà dans le futur, dans l'avenir, en se projetant sur les sentiers, en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire à mon retour ? Est-ce que je vais travailler à nouveau ? Dans quoi je vais travailler ? Ou est-ce que même on va habiter ? Parce que Paris, ça commence un petit peu à nous saouler, etc. etc. » Est-ce que ces phrases, est-ce que ces pensées, ces réflexions étaient présentes ?
Elles étaient présentes, mais finalement pas tellement.
Ouais.
Parce que le temps de l'aventure, c'est vraiment un autre temps. C'est pas du tout le temps du quotidien habituel. Et évidemment, on est parti avec beaucoup de questions dans nos valises, dans nos bagages. Mais on les posait sans se les poser. Et je crois qu'on se les est posées vraiment à peut-être une semaine de l'arrivée. parce que peut-être qu'on ne voulait pas tellement y penser, mais oui, effectivement, c'est des questions qui arrivent. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des réponses par rapport à ces questions, puisqu'on va se former à autre chose.
Alors, on en parlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, mais j'aimerais connaître la première personne avec laquelle vous avez échangé sur vos futurs projets.
Oui, ben ça, c'était à peine d'âgeonner. Ouais. On a eu là aussi un moment d'échange très riche avec une hôte, en l'occurrence. Et je pense qu'on avait déjà une idée relativement précise de ce qu'on voulait faire dans l'immédiat, après Saint-Jean-Pied-de-Port. Mmh. Qu'est-ce qu'on allait faire vraiment une fois qu'on était arrivé, si tant est qu'on arrive quelque part un jour, vraiment. Et en fait, là, oui, c'est la première personne à qui on a fait part de nos projets. Et en fait, à partir de là, une fois qu'on l'a dit...
Ça y est, c'était presque acté.
C'était sûr. Ah ben oui, c'est sûr.
C'était s'engager.
Ah oui.
Alors, on va connaître vos projets dans un instant, mais là, on est toujours sur la route avec vous, sur ces sentiers de cette diagonale du vide, et on vient de rentrer dans le Pays Basque. Hein, donc, il y a quand même un air de faim, ça sent l'écurie, hein, on arrive hein, petit à petit, mais avant ça, on va rencontrer Marie. Marie, elle tient un gîte.
Marie, c'est une jeune femme qui tient un gîte, et c'est une sainte. Elle est incroyable.
Pourquoi c'est une sainte ?
Elle est gentille, on voit quasiment l'auréole au-dessus de sa tête, elle est douce, elle est délicate, elle nous prend sous son aile, elle nous accueille d'une façon qui nous émeut encore aujourd'hui. Mmh. Et sa simplicité et sa gentillesse nous ont vraiment... S'il restait un petit peu de blessure par rapport au départ, elle a tout achevé, elle a mis le dernier pansement, Elle était incroyable, Marie.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'est-ce qui a fait pansement dans ses propos ?
Je pense que ce qu'elle vit au quotidien, parce que elle gère un gîte, elle s'occupe d'un gîte, elle rencontre aussi des pèlerins tous les jours avec des profils extrêmement variés, et les témoignages qu'elle recueille au quotidien font que son cœur est devenu, je dirais, poreux. Alors c'est pas du tout négatif, ce que je veux dire, c'est que dans ce cœur poreux viennent s'intégrer tout type d'expérience, tout type d'aventure. Donc c'est le genre de femme qui, quand elle vous voit, elle sait tout de suite, parce qu'elle a entendu tellement d'histoires, elle connaît tellement l'humain qu'elle vous voit, et puis elle sait ce qui... Elle vous connaît déjà.
Son relais est situé près d'Arambelt, si je me souviens bien. Mmh. Et en fait, il faut imaginer voilà, qu'on est arrivé chez elle après 26 km de marche, je crois, je ne sais plus.
Donc une grosse journée de marche.
Ouais, hein. une grosse journée, oui. Ouais. On était en sueur, c'était le début d'après-midi en plein mois d'août. Et en fait, on est arrivé dans son gîte, Echetoa, je crois que ça s'appelle. Et c'est le genre de personne qui arrive avec une aura...
Ouais.
C'est pas un charisme qui écrase, c'est quelque chose qui vous enveloppe, et en fait on voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de bien et de bon. Et je sais pas vraiment mettre des mots là-dessus, mais en fait voilà, c'est quelqu'un qui vous voit, là, enfin on est pris et on peut qu'écouter et aller mieux.
Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, quels sont les moments qui ont été les plus compliqués, les plus difficiles, sur tous les aspects, peut-être l'aspect force psychologique, également l'aspect physique, clairement. Qu'est-ce qui a été compliqué ?
Je pense que la pluie qui ne nous a pas lâchés,
ouais.
Ça, à un moment, on en avait marre, très clairement.
Ça sentait l'humidité, quoi.
Voilà, c'est ça. Les ponchos, ras-le-bol.
Ouais.
Mais globalement, on était quand même portés par une certaine adrénaline qui nous a donné une force et une énergie. Mais même quand on regarde dans le rétroviseur, incroyable. Vraiment.
Mais oui, parce que ce que je dis pas, Justine, c'est qu'elle est partie 3 mois après avoir accouché. Et elle allaitait Omer en plus, tous les jours. Et elle a, enfin, voilà, ça s'est quand même super bien passé. Non, beaucoup de courage. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de moments trop de doute. Il y a forcément un sentiment de lassitude, notamment quand il y a une pluie tous les jours qui se répète. Bon, on se dit quand même, bon, ça commence à bien faire. Mais voilà, dans l'aventure, il y a toujours ce rebond de l'imprévu qui vient nous secouer et nous faire dire non, mais en fait, il faut continuer d'avancer parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et il y a quelque chose de l'autre côté de la colline, il faut aller voir.
Et de l'autre côté de la colline, il y a peut-être l'arrivée. Ouais, mais c'est quoi une arrivée finalement? C'est à Saint-Jean-Pied-de-Port que va se faire cette arrivée. C'est quoi une arrivée, Justine?
Une arrivée... Oh. Une arrivée, c'est un pied qui dépasse une ligne et qui commence une autre aventure, je dirais. Mmh. Alors, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un nom qu'on a prononcé des centaines de fois parce que forcément, c'était l'objectif, c'était la ville finale. Et puis, on y arrive et en fait, on veut tout de suite repartir.
Ah ouais.
Voilà, parce que c'est une arrivée.
Romain, pour toi, c'est quoi une arrivée ?
C'est un mirage. On croit qu'on... Non, on s'arrête jamais, en fait. Une arrivée, c'est un horizon qu'on ne cesse de repousser tout le temps. Mmh. Et en fait, on a touché la porte du roi de la citadelle Vauban de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est donc notre arrivée, pour le coup. Mais en fait, on savait qu'on repartait tout de suite.
Et alors, vous allez effectivement rechausser très rapidement les bottes de randonnée pour traverser le Caucase à pied, toujours avec Homer d'ailleurs, de la mer Noire à l'Arménie. C'est un projet qui a été mené assez rapidement, puisque c'était 9-10 mois plus tard, au printemps 2025.
Oui, on est parti à la même date, 1er avril.
Ah ouais.
Et on a dû marcher pendant un petit mois, avec des étapes plus importantes, ouais. Marcher plus, ouais. Tous les jours, mais en fonctionnant toujours à l'hospitalité.
Ouais.
Donc ça, c'était aussi très intéressant, parce que la langue n'est pas la même. Et dans des paysages quand même différents, par rapport à ceux qu'on avait l'habitude de voir en France. Et on est rentré à la mi-mai à peu près.
Et alors c'est super parce que c'est un projet qui a été soutenu par un écrivain voyageur, Olivier Weber. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Olivier Weber ?
Il nous a apporté je dirais, un profond soutien moral et se sentir soutenu en fait par des sortes de grands frères, hein, parce que nous, on n'a vraiment pas le qualificatif d'aventurier beaucoup trop important pour nous. Là, quand même, Olivier Weber, c'est on va dire un autre calibre.
Ouais.
Et non, c'est un soutien moral, un supplément de courage, de motivation et d'engagement, parce que voilà, quand on a le parrainage de quelqu'un comme Olivier Weber, on peut se dire, ah non, il fait froid, il pleut, il neige, on reste, non, on sort pas. Non, quand on est soutenu par un tel parrain, on se dit,
ça engage.
On y va.
Et vous avez également été soutenu par le fonds de dotation Paul-Émile Victor. Alors ça va intéresser les aventurières et les aventuriers qui nous écoutent, qui sont nombreux à nous écouter. C'est quoi le fonds de dotation Paul-Émile Victor ?
C'est un fonds de dotation qui permet de soutenir tous les ans, via une bourse qui s'appelle la Bourse de l'Exploration, des projets d'aventure. On a eu beaucoup de chance de remporter le prix du public de l'édition 2024. Donc, et là, par exemple, voilà, cette année, en 2025, le fonds de dotation qui est animé par la fille de Paul-Émile Victor, Daphné Victor, sélectionne une douzaine de projets d'aventure, je crois, et décerne deux ou trois prix. Un prix d'exploration, un prix du public et le troisième m'échappe. Donc nous, voilà, on a reçu le prix du public. Mais c'est pareil, ça fait partie, tout comme Olivier Hébert, des associations, des personnes qui font qu'on se sent moins esselé, peut-être. On se sent en tout cas très porté, soutenu quand on s'engage auprès d'elles. Et on ne peut que les remercier très chaudement d'avoir apporté leur considération sur les projets de notre famille.
Alors, les projets, justement, ça y est, c'est terminé pour la marche de la Diagonale du Vide. Vous venez également de réaliser ce périple avec Homer de la mer Noire à l'Arménie, le Caucase à pied. Et maintenant, qu'est-ce que sont vos projets, notamment professionnels ? Je crois qu'il y en a.
Alors c'est vrai qu'à partir de septembre, on va se former. Il nous reste un petit peu de temps pour finaliser les derniers détails, derniers allers-retours avec notre éditeur pour le livre qui va sortir sur notre traversée de la France.
Ouais.
Donc ça a été une autre aventure en tant que telle, une aventure éditoriale.
Mmh.
Et c'est vrai que par rapport au Caucase, cette aventure-là va aussi s'accompagner d'une aventure éditoriale. Donc, avant de se former en septembre, on est aussi en train d'écrire, puisque c'est très important pour nous, l'écriture sur ce récit traversé du Caucase. À partir de septembre, je vais me former personnellement à la thanatopraxie, qui est la discipline qui apporte les soins de conservation aux défunts.
Et alors ça va se passer où exactement? Ça veut dire concrètement, où est-ce que vous allez poser vos valises?
On va poser nos valises dans le Pays Basque.
Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs.
Voilà. On les a posées.
Et elles
voilà.
sont posées.
Donc on a fait du repérage finalement pendant cette traversée de la France.
Ouais, ouais.
Ce qui est très drôle, c'est qu'on est, on est en train de vivre dans un village qui est pas très loin de là où on a pu passer quelques nuits à Lichos, par exemple, pendant notre traversée de la France.
Donc la thanatopraxie pour toi, Justine, et pour toi, Romain,
artisan boucher.
Artisan boucher.
Voilà, en septembre aussi, un apprentissage.
Alors, auparavant, vous étiez plutôt dans des bureaux quand vous étiez à Paris, avant 2023. Donc là, ce sont des parcours professionnels qui vous attendent, qui sont radicalement différents de ce que vous faisiez précédemment.
Tout à fait, oui, mais c'est des parcours, on entame ces formations en y trouvant le même sens, je dirais, et elles répondent, en tout cas, à l'heure où on vous parle, à un besoin de retrouver un usage de ses mains, d'être peut-être plus en rapport avec je ne devrais pas employer ce mot, mais de la matière, on va dire, et tout en gardant quand même à l'esprit, comme le disait Justine, ce travail d'écriture en parallèle qu'on compte continuer de mener.
Et donc, les mois de marche, les différents mois de marche que vous avez réalisés, eh bien, vous allez, tu l'as dit Justine, en tirer des récits de voyage, des récits aussi plus que de voyage, de guérison. Hein. Il est quand même question de la guérison dans tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Et puis donc, récits d'un cheminement, de plusieurs cheminements intérieurs. Tout ça va sortir en septembre 2025. Donc, si vous êtes en train d'écouter le podcast au-delà de septembre, eh bien, c'est déjà sorti. Si c'est pas le cas et vous êtes en train de l'écouter au mois d'août, et bien sachez que c'est dans un mois que va sortir ce récit. Ça sera aux éditions Transboréal. Il va s'appeler comment cet ouvrage? Ou il s'appelle déjà comment cet ouvrage?
Il va s'appeler et il s'appelle Une famille en chemin.
Ouais. Et on vous souhaite le meilleur évidemment pour les prochaines aventures. Est-ce qu'il y a déjà des envies de traverser, de randonner, de grands voyages et de périples qui sont prévus?
Oui, oui, oui. On en a une. Alors, elle se ferait sans Omer,
ouais.
Mais il y a ce...
Il le sait, il est au courant.
Et on lui a dit. Il est prévenu, on lui a dit.
Il nous a donné, c'est lui qui nous a donné son accord.
Son accord.
C'est lui qui va nous parrainer, d'ailleurs.
Il sera avec ses potes, hein, de toute façon. Hein.
On va fêter avec Romain nos 10 ans de vie commune l'année prochaine.
Ouais.
Et on aimerait pour cela s'offrir une lune de miel... où on n'est pas ensemble. Et il y a ce fleuve que vous connaissez sûrement qui s'appelle le fleuve Amour, qui traverse la Russie, une partie de la Chine, et on aimerait se trouver au début de cette marche, chacun aux extrémités de ce fleuve, et puis comme deux amants perdus, esselés, qui s'aiment, on se retrouverait voilà, après une marche, chacun de notre côté, au milieu du fleuve Amour.
Et c'est magnifique, c'est prévu quand?
Pour nos 10 ans, l'année prochaine.
L'année prochaine, bien. Eh ben, vous reviendrez nous parler de cette marche et de cette rencontre donc, de deux amants.
Donc là, Florent ne le dit pas, mais je suis en sueur. Là. je tremble.
Oh, il y a des gros moustiques.
Hein. Oui, sur le fleuve Amour, il y a des gros moustiques.
Justine, Romain, la famille Bresse avec nous. Et puis vous allez saluer également Omer, votre petit garçon. Merci infiniment d'être venu jusqu'aux aventuriers. Ici, un épisode qui a été enregistré pendant le Festival d'Avignon, en Avignon. Donc, merci à vous, je vous souhaite un bel été et puis on vous retrouve donc avec cette lecture aux éditions, je vais rappeler le nom des éditions, ce sont les éditions Transboréal. On peut retrouver cet ouvrage où ça exactement?
Dans toutes les librairies.
Dans toutes les
partout.
Librairies, bah voilà, c'est bien. Et pour qu'on puisse l'identifier, il ressemble à quoi au niveau de la couverture?
Au niveau de la couverture,
vous le savez déjà?
Ça, oui, on
ouais,
le sait déjà.
C'est validé.
Une petite poussette, la poussette d'Omer,
ouais.
Avec Omer dedans, et puis ses deux parents qui avancent en traversant la France à pied avec le sourire aux lèvres.
Justine, Romain, merci infiniment.
Merci Florent.
Vous avez aimé ce podcast, cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas également à aller nous mettre les différentes étoiles Apple Podcast ou bien encore sur Spotify et Deezer. Merci à vous, on se retrouve dans un mois tout pile, nous serons en Allemagne, nous serons à Düsseldorf, salut.
Les aventuriers. un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.